L'heure de l'affrontement fratricide a sonné pour nos deux historiens émérites. Le temps que Clémentine se chauffe la voix en chantant Lili Marlène.
Werden wir uns wiedersehen, bei der Kaserne werden wir stehen.
Oui. Vous êtes chaude? Nous pouvons jouer à Bern to be alive.
Comment vous dites que vous êtes chaude?
Non, mais... Elle est chaude, la voix de Clémentine, bien sûr. Calamity Clem, face à Calamity Bern. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. 1797. Alors attention, parce que ça, c'est 700. Quelque chose que nous avons évoqué dans notre émission. Nous allons voir si vous êtes attentif à ce qu'il dit ici. Oui, c'est pas votre période fétiche.
Ah non, hein, bon.
1797, dans un faubourg de Londres, naît Mary Shelley. On lui doit le roman épistolaire culte Frankenstein ou le Prométhée moderne. Un an après la mort de la dramaturge anglaise, son fils s'autorise à ranger le bureau de sa maman dans un morceau de tissu enveloppant un poème écrit par son père. Il trouve un morceau de poumon. C'est celui de son papa, justement. Vrai ou faux?
Quelle horreur!
Il est gentil, le papa, d'avoir pensé
à, un petit cadeau.
À demander qu'on lui enlève un morceau de poumon pour le laisser à son fils. Le papa était mort d'un problème poumon?
Son père souffrait de la tuberculose. C'est une petite info que je peux vous donner, mais est-ce qu'elle va vous guider vers la bonne réponse? C'était pas sûr.
Est-ce que Mary Shelley, elle a quand même imaginé fait de chair morte? Il y a quand même dans cette époque d'amour, de littérature gothique, qu'on prenne un petit bout de poumon, une relique, c'est pas...
Oui.
Mais qu'est-ce que ça donne un poumon tout desséché?
C'est tout.
Un brocoli.
Et puis il l'aurait jamais reconnu, ou alors il aurait fallu qu'il y ait un petit papier disant ceci est le poumon de mon défunt mari.
Ça pose beaucoup de questions.
Ça ressemblait à du biltong d'autruche, là, de la viande boucanée.
Je sais pas...
Suivez
pourquoi
votre
pas, oui, écoutez, oui. Mais c'était l'époque où on adorait les reliques et les...
Certains adorent toujours ça. Hein.
Oui, je vous dirais oui.
Vous avez
perdu.
Eh bien, c'est faux, mais c'était un piège, puisque, à peu de choses près, c'était vrai, c'était le cœur de son père. C'est le cœur de son père. En 1822, le mari de Mary Shelley meurt noyé. Comme il avait la tuberculose, son cœur ne brûle pas pendant la crémation. Il est récupéré et donné à son épouse. Elle le gardera 30 ans dans son bureau.
Vous avez entendu ce que vous venez de dire? Comme il avait la tuberculose, son cœur n'a pas brûlé. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une explication scientifique à ce prodige?
Bien évidemment. Quand on a la tuberculose, les vaisseaux sanguins sont sous-alimentés en sang. Ça crée une forme de nécrose au niveau de l'aorte. Et donc, ensuite, le cœur ne peut pas brûler.
Fort,
en fait.
Hein.
Mais c'est pas secret. Question numéro 2 pour vous, Clémentine.
Le tout, c'est de dire des bêtises.
Oui,
surtout,
oui, c'est exactement. Ça. Quel aplomb, ouais.
J'en fais profession depuis quelques années. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Partons pour le 15e siècle, évoquons la mémoire de Charles le Téméraire. Sa dernière bataille a été particulièrement violente. On va le retrouver 2 jours après sa mort, le crâne fendu jusqu'aux dents par une hallebarde, les joues rongées par les loups. On va l'identifier parce que ça faisait 1 an qu'il ne s'était pas coupé les ongles. Vrai ou faux?
Non, tout ce que vous avez dit est vrai, je pense, jusqu'à cette histoire d'ongles, et où il aurait fallu que les loups dévorassent également son visage pour qu'on ne le reconnût point. Oui.
Il avait une joue arrachée par un...
Oui, mais je pense qu'il était quand même identifiable, non? Et cette histoire d'ongles, j'ai jamais entendu ça. Non, moi je pense qu'on l'a quand même reconnu. Il n'avait pas le visage entièrement dévoré, me semble-t-il.
Il avait le visage entièrement dévoré.
Et il avait
l'a reconnu pour autre chose.
À cause de ses vêtements, non? C'est pas ça? Ou de sa...
Visiblement, Stéphane connaît la réponse.
De ses vêtements ou de sa toison d'or, de...
ne fantasmez pas.
Écoutez, ne m'emmenez pas sur un terrain.
Son compagnon de route, en quelque sorte, qui a reconnu une cicatrice qu'il avait.
Ah voilà. Donc, dans mon souvenir, on l'a reconnu grâce à une cicatrice.
Et donc vous dites quoi? Est-ce qu'on l'a reconnu, oui ou non?
Non, pas à ses ongles qui avaient poussé trop longtemps.
Vous avez...
Débat en perspective sur le plateau, puisque ce n'est pas la réponse que j'ai, Stéphane, ce que vous avez dit. Il ne se coupait plus les ongles depuis la bataille de Morat, 1 an auparavant. On l'a reconnu également grâce à une bague. Il n'est pas question de cicatrice dans mes notes, Stéphane. Vous êtes sûr de cette histoire? Est-ce qu'on peut peut-être enquêter? Ou est-ce que vous confondez avec un autre personnage historique ?
C'est très possible, c'est très possible. Pourtant, le secret d'histoire est passé il n'y a pas très longtemps. Et on raconte la mort de Charles le Téméraire à la bataille de Nancy. Et les historiens... Mais c'est un historien flamand, Bart van Loo, et j'ai peut-être pas
vous
tout...
Vous avez vérifié
Peut-être qu'il y a 10 bagues comme cicatrice.
Vous savez quoi ? On va envoyer des gens vérifier ça. Pendant que nous continuons le quiz. Pour l'instant, c'est zéro partout. Et on saura à la fin de ce quiz si vous aviez raison, Stéphane. Stéphane, c'est pour vous cette question numéro 3. Quand on dit avoir des yeux de lynx, en fait, ça n'a rien à voir avec le félin. C'est une référence à un personnage mythologique qui avait la capacité de voir à travers les murs. Vrai ou faux ?
Je sais qu'avoir des yeux...
Mais c'est le pilote, c'est Jason et les Argonautes
c'est
qui partent en Colchide chercher la toison d'or et le pilote du bateau s'appelle Lynx et il est connu pour sa vision extrêmement perçante.
Je ne suis pas sûr qu'il voyait à travers le mur, mais c'est vrai qu'on appelle Lynx non pas à cause de l'animal, mais à cause d'un personnage.
Ouais, il ne voyait pas à travers les murs, je crois pas, ces femmes.
Vous avez gagné.
C'est une excellente réponse, Stéphane. C'est une référence à Lyncé, un complice de Jason, celui-là même qui voulait conquérir la toison d'or. Il pouvait en effet voir à travers les murs, mais aussi à travers le sol. Du coup, il en profitait pour remonter des sacs de cuivre quand il en voyait sous ses pieds. Il a été tué par Castor et Pollux parce qu'il voulait lui voler un troupeau de génisses. On est peu de choses. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Attention, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Trouvez la citation de Jean Lafontaine. On rencontre sa destinée souvent par les chemins qu'on prend pour l'éviter. Quand on court après l'esprit, on attrape la sottise. Partout, la liberté affronte les forces du mal, mais rien n'est plus fragile qu'un idéal.
C'est la première, pour moi, qui me paraît le plus ressembler à Dieu La Fontaine.
Non, c'est la deuxième. La Fontaine, c'est la deuxième.
Découvrons le résultat.
Vous avez...
C'est bien vous qui avez gagné, Clémentine.
Ah oui, non, j'aurais dit la deuxième.
Oui, non, la deuxième, elle était de la personne qui prépare le quiz. Voilà, comme ça, on
et
peut dire qu'il avait
vu,
le ciel.
Bravo,
c'est bien
bravo
vu.
Stéphane.
C'était un bon piège. Ouais. Donc, c'est effectivement ça. On rencontre sa destinée souvent par les chemins qu'on prend pour l'éviter. C'est dans une fable qui s'appelle L'Horoscope. Quand on court après l'esprit, on attrape la sottise. C'est Montesquieu. Ah non, c'est Montesquieu.
Ah oui, c'est ça. Je savais que j'avais entendu.
Bien sûr. Et partout, la liberté affronte les forces du mal, mais rien n'est plus fragile qu'un idéal. C'est.
Partout, la liberté. Affronte les forces du mal.
C'est quoi, Albator, non ?
Mais non, c'est moi. Vous n'avez pas reconnu ?
Non.
Enrico Macias.
C'est Enrico.
Dans le titre, Au nom des droits de l'homme, si vous êtes fan de Jean de La Fontaine, rendez-vous ce soir sur France 3, Secret d'Histoire, présenté par le fabuleux Stéphane Bern. C'était à 21h05.
Oui, c'est comme chaque lundi, oui.
Ouais, exactement, mais je préfère le rappeler. Parce
c'est très gentil, merci.
Voilà, si jamais des gens l'oubliaient.
Oui. Ben, et puis, il y a des fables dites aussi par Fabrice Lucchini.
Dans votre émission ?
Ah oui,
ah
vous
oui,
allez
ben,
voir,
ah,
c'est quelque chose, oui.
Et maintenant, la question que la France attend. La question qui va vous départager, la question 5, question de rapidité. Toucher le pactole, vous savez d'où vient l'expression, c'est un fleuve de l'Antiquité gorgé d'or. Midas, qui avait demandé que soit transformé en or tout ce qu'il touche, va se rendre compte qu'il va être impossible pour lui de manger. Il va rompre le sort en se nettoyant dans le pactole. Mais aujourd'hui, dans quel pays se trouve le pactole ? 4 propositions. En Grèce, en Turquie, en Macédoine du Nord, ou en Macédoine de légumes.
En Macédoine.
Turquie, bonne réponse.
Ah mince.
De Clémentine Portier-Kaltenbach.
Je pensais qu'il y avait un piège et j'ai dit Macédoine.
Oui, non, il n'y avait pas de piège parfois. Ça... Sur la question de rapidité, je ne mets pas de piège parce que déjà qu'il faut être rapide. Le fleuve fait 25 km et prend sa source sur les pentes du Mont Mol, dans l'ouest de la Turquie. Bravo Clémentine, c'est une belle victoire. Est-ce qu'on a la réponse à la question ? J'ai demandé d'enquêter tout à l'heure. Est-ce que... On l'a bien reconnu grâce à ses ongles. Donc effectivement, vous irez... Vous y avez trouvé votre historien belge, et vous lui direz « Faut réviser un petit peu tes classiques, mon vieux. » Vous lui direz ça de ma part. Victoire de Clémentine, bravo.